Quelle heure ?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis ta crise 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit. Ça se cache derrière, c'est le cerf la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton vol, voler et ton fichier. C'est tout ton vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec toi la tête. Prends mis la chute dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est
quoi?
C'est Camille l'info.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio più ribelle.
Paniquez pas, niquez tout. Canu info du vendredi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vendredi 19h15, on est un tout petit peu plus en retard que d'habitude, mais pas trop, alors ça va. Et du coup, bah, c'est l'heure du Canu Info du vendredi.
Évidemment, faites de la musique, mais vous êtes en train de nous écouter, c'est pas la Saint-Jacques Lang ici, on va vous donner des informations. Et on commence évidemment avec le féminisme et la Pride de Rennes qui malheureusement a été violemment réprimée par la police.
Et puis on continuera au local, d'ailleurs en parlant de local, si vous entendez un gros boum boum, c'est le bar d'à côté, mais je pense pas que ça arrive jusqu'à vos oreilles, dans le doute, sachez-le, il y a la fête juste à côté de Radio Canu, mais en tout cas nous en local on vous parlera surtout de Doucet qui n'aime pas les tags.
Parce qu'il a très mauvais goût, mais il n'y a pas que Doucet au local, il y a aussi la métropole, et la métropole eux ils aiment pas trop les travailleuses et travailleurs, et du coup les syndicats se mobilisent.
Absolument. Je me suis perdu parce que en fait
parce y a
une jingle qui a disparu et tout. Je ne sais plus où on en est, mais je crois qu'on va parler de la grève des bergers et des bergères qui avait lieu hier.
Et oui, car les bergers et les bergères, ils ont des conditions de travail de merde et ils n'aiment pas trop l'extrême droite. Et donc ils et elles se mobilisent. Et puis par ailleurs, on vous donnera 2-3 petites infos sur l'agenda, que faire ce week-end, évidemment. Et puis ensuite, on pose toujours la question de qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire à CAP. J'ai vu ça sur un tag tout à l'heure dans la rue. Je ne savais pas ce que ça voulait dire.
C'est
si
merde.
Vous savez, vous pouvez évidemment appeler le 04 78 39 18 15.
Le numéro par cœur, c'est beau. Et bah, sur ces bonnes nouvelles.
Ouais, ça flexe un peu ici. Ouais,
franchement, c'est pas mal. Et du coup, on va du coup vous parler de la Pride de Rennes.
Invisible, disponible, libre et irréductible.
Canu, info.
Invisible, disponible, libre et irréductible.
Attitude féministe.
Les hommes fiers et féministes et solidaires.
Canu Info du vendredi.
Oh là là, sans les micros, c'est moins bien. Et oui, on va vous parler de la Pride de Rennes qui avait réuni plus de 15 000 personnes du coup à l'occasion de la marche des FRT. Une Pride très politique qui s'inscrit dans la période ouverte par la décision de Macron de dissoudre l'Assemblée nationale et des sorties transphobes malheureusement de plus en plus régulières et de plus en plus violentes. Donc cette Pride, elle avait lieu à l'appel de collectifs, associations LGBTI+, de syndicats, dans le sillage du front de riposte transféministe et des manifestations précédentes contre la loi transphobe qui malheureusement a été validée par le Sénat. On attend encore l'Assemblée nationale. Voilà. Seulement, malheureusement, à mi-parcours de la manifestation, les CRS qui l'encerclaient ont tenté de la disperser sous les gaz lacrymo, provoquant un mouvement de foule durant lequel plusieurs personnes ont été blessées. Bloqué par les forces de répression, le cortège unitaire a fini par se dissoudre dans la manifestation. Mais la répression ne s'est pas arrêtée là, puisqu'après la marche, des manifestants ont été violemment réprimés par la police dans le centre-ville. À Rennes, c'est la première fois que la police réprime la Pride. Ordonnée par la préfecture, cette répression met également aux yeux de tous le pinkwashing de la mairie. En effet, la maire Nathalie Appéré, donc socialiste, coordinatrice de la Pride, avait d'ores et déjà menacé les organisatrices de les tenir en totale responsabilité en cas de problème lors de la manifestation, car comme chacun et chacune le sait, on peut absolument contrôler tout ce que font les gens dans une manif, c'est bien connu. Se targuer de progressisme tout en réprimant par derrière, la méthode est loin d'être nouvelle pour la maire de Rennes, qui a par exemple dénoncé le passage de la loi immigration en décembre dernier, après avoir elle-même expulsé quelques mois plus tôt un campement de personnes sans papier installé dans un parc. Par une politique loin d'être aussi progressiste qu'elle veut bien le dire, le mandat d'Appéré rejoue en fait la présidence de François Hollande. Le président socialiste avait en effet porté la loi autorisant le mariage pour tous avant de faire avaler l'instauration de l'état d'urgence, le débat sur la déchéance de nationalité et l'application de la loi travail qui ont dégradé les conditions de vie de nombreuses personnes et évidemment de nombreuses personnes LGBTI+. À l'heure où le Parti Socialiste, porté par ses résultats aux élections européennes et ses figures les plus honnies comme Hollande, connaissent une réhabilitation à travers le Front Populaire, la répression de la Pride rennaise vient rappeler aux manifestants et manifestantes dans leur chair que le PS ne sera jamais un véritable allié des luttes LGBTI+. Certains comptes LGBTI ont, sur les réseaux sociaux, en plus réagi en s'adaptant beaucoup aux injonctions de l'élite rennaise, soutenant que nos prides ne devraient pas troubler l'ordre public, que la police les protège. Alors, pour celles et ceux qui se demanderaient encore, la police n'est jamais là pour protéger les manifestations, sauf si elles sont d'extrême droite. La police est là pour les contenir, les réprimer et pour prendre le pouvoir dessus.
C'est sa fonction historique.
C'est, voilà, c'est pour ça qu'elle est là et malheureusement, on a la tristesse de le constater chaque semaine. Maintenant. La marche de samedi dernier a pourtant démontré le contraire, prouvant que la nécessité de porter des revendications politiques dans nos prides. Le climat politique international est monté par la montée des idées réactionnaires et l'accélération des offensives transphobes. Macron s'en est fait lui-même le vecteur ce mardi en fustigeant une mesure qu'il juge ubuesque du programme du nouveau Front Populaire, à savoir la possibilité d'aller changer de sexe en mairie. Le changement de genre étant actuellement censé être un droit garanti par la loi. Ces attaques montrent l'urgence d'entamer une lutte dure par en bas pour mettre stop aux attaques contre les droits des personnes LGBTI+. Pour autant, défendre la construction d'une mobilisation en bas doit nécessairement s'accompagner d'une discussion stratégique dans les cadres d'organisation. Dans ce sens, nous appelons l'ensemble des organisations féministes et LGBTI, ainsi que toutes les personnes qui veulent continuer le combat contre l'extrême droite et contre les attaques visant le droit à disposer de nos corps, à poursuivre la dynamique impulsée par la riposte transféministe. Les assemblées générales initiées au début du mouvement doivent perdurer, devenir les outils de débat et d'élaboration collective afin de poursuivre le tissage des liens avec le secteur du monde du travail et investir tous les espaces de mobilisation contre l'extrême droite qui émergent dans la période. Contre le renforcement et l'accession au pouvoir de l'extrême droite du monde entier, dans le monde entier, contre les offensives transphobes, contre les attaques du droit à disposer de nos corps, l'émergence d'un mouvement général auto-organisé et déterminé à construire la riposte par la mobilisation des jeunes et du monde du travail est un enjeu fondamental. Voilà, c'est un communiqué qui a été publié sur Révolution Permanente.
Et tout de suite, on passe au local.
Mais où est le local? Il est là.
Où est le local? Je peux pas faire le jingle moi-même.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
smart. Avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous les bougez en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes, en chantant résiste.
Alors, qu'a donc bien pu faire encore ce bon vieux monsieur le maire de Lyon, Grégory Doucet évidemment? Eh bien, le 18 juin, il a lancé son propre appel contre le fascisme, non pas contre le fascisme évidemment, contre les tags. Alors c'est un peu surprenant, mais effectivement, il est très très triste et les médias lyonnais l'accompagnent pas mal. Alors là, j'ai récupéré l'info sur Actu Lyon, mais ça a été repris intégralement, y compris par la presse de caniveau française comme le Figaro, etc. Parce qu'ils sont très très contents de voir un maire identifié de gauche dénoncer les salissures et le tag dans sa ville. Et donc, on a notamment sur Actu Lyon, on peut voir comment le journaliste ou la journaliste est hyper enthousiaste, puisqu'il écrit « Statue de Louis XIV sur la place Bellecour, quai du Rhône et de la Saône, monuments historiques, bâtiments officiels comme l'hôtel de ville, des mairies d'arrondissement, des commerces, des immeubles d'habitation, la liste des lieux victimes de taxes sauvages. » Le nom, le terme victime, c'est-à-dire que tout à fait, absolument, il y a des lieux
proportionnés,
victimes, quoi, c'est vraiment horrible. Soutien absolu à la famille des murs, évidemment. Les lieux victimes de taxes sauvages s'allongent chaque jour un peu plus à Lyon. Donc là, on est dans l'habituel récit complètement décliniste et réactionnaire. Et écrit ce brave média, face à la colère d'opposants, de collectifs d'habitants et d'habitantes, de protecteurs du patrimoine, tous ces gens qu'on pourrait classer assez facilement très très à droite, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a enfin écrit ce média qui prend pas du tout parti, c'est juste... Vous connaissez le journalisme habituellement, il n'y a que les médias comme Cardio Canu qui sont, eux, situés politiquement, a enfin lancé un appel solennel à ne plus s'en prendre au patrimoine. Alors, ce qui inquiète notre brave élu, c'est qu'actuellement, bah, en fait, il y a un conflit en cours au Moyen-Orient, il y a un génocide en cours à Gaza, il y a le fascisme qui est aux portes du pouvoir, et donc, bah, en fait, tout ça, ça fait que les gens s'expriment, vont sur les murs, etc., et font en plus des tags politiques, parce qu'ailleurs, si tu vas juste mettre ton nom ou faire un joli dessin, on t'embête un tout petit peu moins, mais en fait, comme tous ces tags politiques, c'est un petit peu dégueulasse. Il y a aussi des tags de nazis, n'hésitez pas à les repeindre d'ailleurs. Et du coup, c'est très triste. Alors, Grégory Doucet a utilisé un média qui appartient à un patron d'extrême droite, parce que c'est comme ça qu'on communique envers la population maintenant, qui s'appelle X, anciennement Twitter, pour écrire, je cite, notre chère mère. Voir nos biens communs abîmés est un crève-cœur. Face aux dégradations répétées d'œuvres et de bâtiments, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Porter atteinte à notre ville est un facteur de division à l'heure où nous devons plus que jamais être solidaires. Je le relis, hein. Porter atteinte à notre ville. Donc, tu fais un vieux tag en écrivant, par exemple, Bardella ou Nick Lefaf, etc. Et ben, c'est un facteur de division de notre belle ville. Donc on voit bien à peu près le niveau de politisation de ces gens. On va être forcé de voter pour eux pour essayer de pas se bouffer le fascisme dans 3 semaines. Mais ça reste quand même sacrément des clowns. Est un facteur de division à l'heure où nous devons plus que jamais être solidaires. Donc ce message, hein, quand même, a été l'occasion pour lui aussi de rappeler tous les efforts qui sont déployés pour effacer des tags, hein, puisque depuis janvier, l'équivalent de 20 terrains de foot ont été nettoyés, soit près de 142 000 m². L'an passé, dit-il, nos agents ont traité au total 280 000 m². Je tiens à les remercier pour ce travail rigoureux. Donc 280 000 m², si on prend la même allégorie, ça fait 40 stades de foot. Bon, peut-être qu'on pourrait utiliser l'argent public pour faire autre chose. Et par ailleurs, c'est un petit peu comique parce qu'ici, on vous parle de la Croix-Rousse où on laisse gentiment le tag se répandre parce qu'en fait, on trouve ça trop classe et ça fait partie de l'image, on va dire, touristique de la ville. On a même l'agence du tourisme Olignon qui propose des visites pour un peu interlope, pour aller voir le street art parce qu'on n'est plus street art quand on fait de la pub. Donc, il y a toute une espèce derrière de malhonnêteté, il y a toute une espèce de double jeu aussi entre les muralistes, le beau graffiti, etc. Et puis évidemment les vilains tags où c'est simplement un blaze, ou pire encore,
avec un message politique.
Avec un message politique. Ils sont en général classés dans les injurieux, comme si tu écris par exemple une insulte pour X personnes que tu connais, comme par exemple Usul Kotoku, que j'ai vu il y a quelques temps, eh bien, c'est la même chose que si tu écris par exemple Doucet démission, par exemple, ou Bardella n'est pas sympa. Et il finit,
j'ai pas vu celui-là encore.
Parce que la vigilance doit être permanente, j'invite à nouveau chaque Lyonnais, Lyonnaise, ça c'est moi qui rajoute, à signaler les dégradations dont il serait témoin via la plateforme dédiée. Et ça c'est assez intéressant parce qu'évidemment il y a une plateforme, hein, qui s'appelle Tout de Go à Lyon, je vous incite à y aller. Vous pouvez signaler par exemple un tag et dire il est carrément joli, gardez-le. Non, faites pas ça parce qu'ils vont venir l'effacer. Et bien c'est quand même une incitation à faire ça. Des plateformes du genre, il y en a énormément. En fait, chaque ville a cette plateforme. Et ces plateformes, elles ont une particularité, c'est que en fait elles prennent en charge tout ce qui gêne. Donc c'est pas uniquement en fait les tags, on peut aller y déclarer tout et n'importe quoi pour voilà, parce que on le rappelle, je sais plus qui avait dit ça il y a très longtemps, à l'époque où C'était peut-être, je sais plus, bref, il y a un type qui avait dit que la délation, c'est pas bien, mais la dénonciation est un devoir républicain, ou l'inverse. Et donc, un truc intéressant quand même, c'est que ces politiques-là d'effacement du tag, ces politiques-là de demande de signalement, de plateforme, etc., elles existent un peu partout. Et assez récemment, une autre émission de Canu qui s'appelle Minuit Décousu a fait un documentaire à ce sujet avec des camarades toulousains et toulousaines qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Effacement et qui revient précisément sur ces questions. Le documentaire de Minuit Décousu, il fait une quarantaine de minutes. Là, on vous passe un extrait qu'en fait une dizaine et qui aborde précisément pourquoi on efface tout ça et comment l'effacement, c'est pas uniquement dégager des tags, c'est aussi effacer la possibilité d'expression et c'est aussi effacer les pauvres de la ville.
Sur le bouquin, on s'est dit à un moment qu'il y avait un lien entre différents conflits dans la ville et qu'on pouvait le lire dans ce qu'on appelle les inscriptions, c'est-à-dire la manière de s'approprier un espace. C'est une forme de lecture de l'appropriation. Quand on rentre dans un espace, quand on y est, eh ben, on le marque, on y laisse des traces et c'est ça aussi qui nous fait un lien avec ça et qui nous permet de s'y retrouver, de s'y reconnaître et de se sentir lui appartenir et qui nous appartiennent. Là-dedans, il y a par exemple le graffiti, soit le graffiti de graffeur, de personne qui fait du tag, mais aussi du graffiti politique, ou du graffiti d'amoureuse, d'amoureux, ou de jeune con qui fait des bites, quoi. À Toulouse, en tout cas, il y a eu une période où les murs, ils parlaient, quoi. Les murs, ils étaient vivants. Les murs, ils avaient des choses à dire. Et donc, on pouvait les lire. Et notamment, il y a un truc qui avait marqué, c'était... Il y avait Libéré Machin. Quelques mois plus tard, quelqu'un était repassé en marquant « C'est fait ». Dans les années 2000, il y a eu une politique d'effacement qui a commencé. Ils ont commencé à exploser les murs à la sableuse. Ce que tu faisais dans la nuit disparaissait le matin, quoi. Et j'ai été très marqué par un épisode à un moment, par exemple, où j'avais fait un graffiti en bas de chez un ami pour son anniversaire. Et il m'avait dit le lendemain, donc jour de son anniversaire, qu'il était très en colère parce qu'il avait été réveillé par les sableuses à 6h du matin. Donc je lui avais offert un réveil matin à 6h pour son anniversaire. C'était pas exactement ce que je cherchais. Mais il y a eu cette politique d'effacement qui est allée loin, parce qu'en fait il y a eu aussi l'interdiction de l'affichage politique, de tracter aussi. Alors il y a eu des ça a rétro-pédalé sur des trucs. Mais en fait aujourd'hui les gens se sont mis à accrocher au scotch, en colle des affiches, c'est plus aussi freestyle qu'avant, quoi, et ça tient pas. Et notamment la disparition des cabines téléphoniques qui étaient des supports énormes à affiches a fait que ça tient pas et qu'on a, et c'est des espaces d'expression qu'on a perdu, des espaces de marquage de on est là, on peut nous retrouver, etc. Dans la même période, et on parle des années 2000, hein, la propagande municipale s'est énormément développée en s'affichant 4x3, en mettant des totems dans les rues. Au moindre chantier, il y a une pelletée de tableaux, d'écriture, etc. On t'explique, on te refait l'histoire de la ville, etc. etc. Il y a vraiment quelque chose qui se joue dans la lutte de qui peut avoir un discours, qui peut raconter ce qui se passe ici, et l'effacement de tout ce qui pourrait dépasser.
Trafic sauvage de l'art pariétal, quand la mégapole spige, plongée dans un brouillard total, les billes voltigent. Bravant le climat, la législation et les grillages, c'est pas leur répression qui nous fera changer d'aiguille. Des grappes d'alvéoles, pulmonaires qui se désagrègent. Par le biais d'inhalation de vapeur nocive à chaque remplissage. Ça me rend plus sage, je me calme à la peinture. Du coup je fais des économies de chocolat et de verdure. Le fat cap crépite, mon bras répète la même gestuelle. Le métacarpe rigide et l'index dans une forme insurrectionnaire.
La mairie, par une plateforme qui s'appelle Allo Toulouse, produisent une mise en équivalence de toute forme d'indésirable, dont les graphes, les gens qui dorment dehors, les émeutes, enfin voilà, en fait plein de choses qui sont totalement différentes.
C'est une plateforme qui a été créée pour répondre soi-disant aux besoins en fait des habitants de la ville et en fait qui sert à signaler et dénoncer des formes d'anomalies justement. Ça peut être à la fois les dépôts d'ordures dits sauvages, les mères de chiens, les tags, voilà, il y a tout plein de choses qui rentrent dans cette classification anomalie. En fait, il y a une application qui peut se télécharger sur le téléphone, qui permet de prendre en photo ce qui est considéré comme des anomalies. Ensuite, il y a une espèce de classement qui permet de répertorier ces anomalies. Et à partir de là, ensuite, c'est réparti et traité avec les services municipaux correspondants.
C'est vraiment une plateforme qui consiste à produire du citoyen et à faire du citoyen un keuf potentiel, parce que ça permet à ce que chaque personne puisse avoir la plateforme sur son téléphone. J'ai un peu suivi les agents du détagage à Toulouse et pour le coup, il y a autant des demandes qui viennent de Allo Toulouse que des demandes qui viennent d'élus directement ou juste en fait une espèce de brigade qui se promène dans la rue toute la journée. Ils s'appellent les ambassadeurs de l'espace public et qui prennent en photo toutes les anomalies. Je sais pas à quel point c'est particulier à Toulouse, mais il y a en fait une espèce de police du visible, quoi. Ils doivent être, je pense, entre 5 et 10 par pôle. Il y a 5 pôles différents et qui se promènent toute la journée en prenant en photo ce qui, en gros, dérangerait une apparence lisse et bourgeoise de la ville. Ils sont censés répondre, en fait, aux demandes de Allo Toulouse en un peu moins d'une semaine. Donc, ils sont censés effacer les tags assez vite, avec quelques exceptions. L'une des exceptions, c'est ce qu'ils appellent la catégorie des injurieux. C'est-à-dire que quand les travailleurs ils reçoivent des demandes d'effacement, ils ont une pile, en fait, de papiers avec lesquels ils partent en tournée, là, dans leur petit camion pour aller effacer.
Sur le bouquin, on s'est dit à un moment qu'il y avait un lien entre différents conflits dans la ville et qu'on pouvait le lire dans ce qu'on appelle les inscriptions, c'est-à-dire la manière de s'approprier un espace. C'est une forme de lecture de l'appropriation. Quand on rentre dans un espace, quand on y est, eh ben, on le marque, on y laisse des traces.
Ouais, c'est un truc technique, on vous recale immédiatement le documentaire, il s'est relancé tout seul, c'est scandaleux, la censure de Radio Canu, mais on est toujours là. Alors apparemment, il faut que je meuble. Bon, c'est la fête de la musique, nous on vous parle de tag, évidemment. Rappelons quand même que donc là, la plateforme dont il parle, qui s'appelle Allo Toulouse, eh ben, c'est l'exact équivalent de To The Go, dont on parlait.
Ou de jeunes catégorisés, en gros, comme injurieux. Et en fait, en gros, ils catégorisent comme injurieux phrase ou slogan qui est un peu directement politique, c'est-à-dire que s'il y a écrit ZAD partout, ça va être aussi catégorisé comme injurieux. S'il y a écrit Macron dégage, ça va être catégorisé comme injurieux. Et donc, ils effacent les tags, disons plutôt les slogans, en moins de 48 heures.
Pilotage automatique, privilège. Aérosol, marqueur, mini spray, dealer de forme de fat cap énorme et de skinny trait.
Ça va, ça vient. C'est-à-dire que il y a des pratiques qui se développent, des pratiques différentes. Les gens sont mis à faire du rappel, sont mis à marquer des choses à l'acide, etc. Mais il y a aussi un truc, c'est qu'il y a beaucoup de la communication politique qui s'est répercutée sur Internet, en fait. Les années 2000, c'est aussi l'arrivée de Facebook. Au même moment où on interdit d'afficher dans la rue, on se développe sur Internet des endroits d'affichage extrêmement efficaces. Après, il y a pendant les manifestations, il y a une répression où, en gros, voilà, les gens se font arrêter par là-bas. Il y a même quelqu'un qui s'est fait soulever chez lui le lendemain après un tag dans une manif. Donc, il y a une espèce de recul. Ça devient, alors qu'on avait, moi, je me souviens, 1995 ici, tu faisais des graffitis, tu mets pas une cagoule, quoi. Tu poses et t'écris, quoi. Les gens écrivent et tu te passes la bombe et les gens faisaient des pochoirs et voilà, quoi. Et il y avait possibilité d'occuper la rue. Et ça, ça a été pourchassé. Et il y a eu ce truc de nettoyer après les manifestations. Et pendant les manifestations Gilets jaunes, où c'est beaucoup revenu ce truc, ils ont repeint, mais vraiment, il y avait une espèce de volonté dès le dimanche matin de remettre non pas la rue propre, parce que en fait c'était des plaques de bois sur les vitrines, etc., mais on s'en occupe. En fait, c'est vraiment une police, c'est tenir la rue, quoi.
En fait, l'effacement et la fresque, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en gros, il y a une main droite qui produit une forme de répression, qui est donc le pur effacement des enquêtes de police et des trucs juridiques pour les personnes qui peignent, quoi. Et la main gauche, c'est d'aller chercher des gens qui font des fresques et en fait d'aller repasser des murs où il y a déjà des graffitis pour aller y mettre autre chose. Donc ça, c'est une patrimonialisation, c'est-à-dire qu'un mur qui est peint par des graffeurs, en fait, il est vivant. C'est-à-dire que quelqu'un vient mettre un tag, ensuite des gens ils peuvent mettre d'autres trucs par-dessus, ensuite les gens ils essayent de peindre un peu au-dessus, tu peux avoir des peintures sur parfois 3 étages, des trucs qui se superposent, etc. Des fois il y a des embrouilles parce que les gens ils se repeignent dessus, mais en tout cas le mur il est vivant. Et du coup ça produit une ville un peu vivante où quand on se promène on voit des nouvelles choses, enfin, ça produit en fait un espace qui est intéressant et qui est un truc un peu, en vrai, un peu ludique et puéril, mais qui fait que la ville elle est cool à vivre. Et la fresque, elle vient figer ce truc-là pour empêcher que le vrai graffiti existe, quoi. Et donc nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que c'est en fait exactement la même chose et que Toulouse se vend comme la capitale du street art, une capitale du street art en France, et en fait surtout la capitale de l'effacement, quoi.
Comme tout top dans un entrepôt entre potes, faut bien faire le stock pour les tags et les blocs. Pas de canne, que de la tempête, ça cartonne, un camtar, ça flop. Des stars, on a que la poussière, qu'on décolle des stores. Chemin et rideau de fer, on est dans une autre sphère. Les tags à tous les étages, avec ou sans échafaudage. Une passe dans un l'étui de guitare, on ouvre des portes, les dépose, type le décor, descend du toit. Pour se réfugier dans une gare, je peux pas m'en défaire. J'explose mes lignes de conduite, mes partenaires, la poussière, un œil dans le dos, escompte biche. J'ai jamais star, je promets, toujours stack, chromé sur une porte fermée, que seule la police a cerné. Ça c'est la culture graffiti, tant qu'on peut pas nous encadrer, on peut pas nous voir en peinture. Graffiti culture.
On peut parler d'effacement comme une politique du pouvoir qui va des tags aux pauvres en passant par tenir la rue, tenir l'espace public, tenir en ordre, propre et rangé, au-delà de l'image. Bon, déjà l'image, je pense que la métaphore, elle va loin, elle fonctionne bien. Le propre et rangé, c'est jamais anodin, c'est jamais neutre. C'est quelque chose qui marque un rapport au monde, une hiérarchie des valeurs et ce qui est important et ce qui n'est pas important. Ce qui peut être dit et pas dit. Et aussi ce qui est considéré comme ayant de la valeur et ce qui n'en a pas, ce qui est de la saleté, ce qui est barbare et ce qui a droit de cité. Les politiques anti-pauvres qui se sont développées dans les centres-villes ont exactement utilisé les mêmes procédés. Dire que c'est mal, ça prend de la place, c'est dangereux, c'est criminogène. Développer un arsenal purement répressif, c'est-à-dire en gros la matraque et les flics, quoi, le déguerpissement. Et d'un autre côté, un arsenal démocratique qui est l'accompagnement vers un autre endroit, la gestion de l'espace public à travers des brigades spécialisées, etc., etc., mais qui reviennent aux mains, c'est-à-dire faire disparaître ou en tout cas gérer les populations. Par exemple, on voit la même chose avec le graffiti, avec les fresques, les effacements, etc. Ça va plus loin que la métaphore. On retrouve le conflit qui fait la ville, qui fait l'espace entre appropriation et homogénéisation, entre pouvoir, pouvoir sûr, pouvoir de l'État, pouvoir du capital, et les élans vitaux des classes populaires pour s'aménager un espace qui leur soit favorable, qu'il soit habitable. Et ça passe par des marques, des traces qu'on laisse dans l'environnement, par une mémoire qu'on peut fabriquer, et l'effacement, il va contre ça. C'est une sorte de politique de fond, qui je pense est une politique de classe, dans le sens où elle n'est pas complètement consciente, elle est un amalgame de plusieurs politiques, de plusieurs intentions, qui au final donne une logique de classe, qui est une appropriation de l'histoire des lieux, et les lieux par la bourgeoisie représentée par le pouvoir municipal, et aujourd'hui métropolitain, quoi.
Et ouais, merci aux camarades d'effacement pour cette lecture un peu de comment, ce que ça veut dire de toujours se battre pour l'effacement des tags, et qui finissent sur le pouvoir métropolitain. Et justement, on va vous parler de la métropole de Lyon à travers un communiqué de presse qui s'appelle « Situation violente de l'emploi à la métropole de Lyon », qui est en gros co-signé par la totalité des syndicats de la fonction publique territoriale, puisqu'il y a Sud et la CGT, bien sûr, mais carrément la CFDT, la CFTC, des trucs que je connais même pas, genre l'UNICA, qui sont signataires de tout ça. Alors les agents et agentes métropolitains et métropolitaines et les syndicats signataires sont très inquiets de la situation de l'emploi au sein de la métropole de Lyon. Alors que la métropole publiait 150 à 200 avis de vacances, hein, les avis de vacances c'est quand il y a des postes qui sont vacants et qu'on cherche des personnes, il n'y a aujourd'hui qu'une vingtaine d'annonces à pourvoir pour une collectivité de près de 10 000 agents et agentes. Plusieurs dizaines d'agents ont indiqué aux organisations syndicales qu'ils sont dans une très grande incertitude quant au renouvellement de leur contrat. On vous a parlé la semaine dernière des gens qui se faisaient carrément couper leur contrat parmi les personnes de l'entretien dans les collèges. Nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui savent déjà que leur contrat ne sera pas reconduit. Toutes les directions de la métropole de Lyon sont concernées, hein, tant les maisons de la métropole qui gèrent en fait notamment la question, toutes les questions relatives au social, hein, notamment le handicap, les collèges, on en a parlé la semaine dernière, que dans les directions techniques et dans leurs directions de ressources personnelles, ressources humaines, marché public. Les agents et agentes qui exercent des métiers d'assistance administrative, d'entretien, de technicien, technicienne, d'assistante sociale, de puéricultrice, de chef de projet sont menacés. Les agents et agentes ont été embauchés soit pour des augmentations temporaires d'activité, soit en contrat à durée déterminée sur des postes fixes, hein, c'est un truc qui est de plus en plus récurrent parce qu'on n'aime pas trop embaucher des fonctionnaires même territoriaux aujourd'hui. Pour les agents et agentes en contrat d'accroissement temporaire d'activité, donc c'est notamment eux et elles qui sont menacées, c'est celles qui viennent combler un trou, quoi, et ça représente 400 personnes qui doivent être limitées à des durées de 12 mois sur une période de 18 mois, leurs contrats correspondent très souvent à de l'activité pérenne. La métropole ne respecte d'ailleurs pas la loi en renouvelant une partie de ses contrats au-delà de ses durées légales. Bravo la métropole. Mais elle a recours à ces contrats car ils reviennent moins chers que les autres, puisqu'il y a moins de cotisations sociales par ailleurs. Pour les remplacements sur des postes fixes, la métropole de Lyon a recours à des contractuels en contrat à durée déterminée, donc en CDD, près de 1100, pour des des remplacements d'agents et agentes en congé maternité, en disponibilité ou en congé maladie. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, globalement, c'est des absences qui sont très très peu remplacées. Aujourd'hui, cette situation est violente car le volume de travail est toujours aussi important. Évidemment, il y a moins de personnes qui travaillent, mais il y a toujours autant de boulot à faire. Et la diminution des postes et des agents et agentes présents entraîne une dégradation des conditions de travail pour tous les services. C'est finalement, hein, évidemment, les habitants et habitantes de la ville de Lyon qui sont pénalisés avec une détérioration des services rendus à la population. Alors à quoi c'est dû ? Eh bien, des erreurs de gestion, de prévision. Les organisations syndicales pointent un pilotage erratique de la métropole de Lyon et écrivent « Nous dénonçons cette situation avec la plus grande fermeté et demandons à l'exécutif de fournir des moyens humains suffisants pour fonctionner. L'humain n'est pas une variable d'ajustement. De plus, le discours tenu envers les partenaires sociaux, donc les partenaires sociaux, c'est les syndicats, hein, ne correspond pas du tout à la réalité vécue sur le terrain. L'exécutif joue avec le feu en période électorale », écrivent-ils et elles. Nous appelons finalement les agents à une grève d'au moins 2 heures avec un rassemblement devant l'hôtel de la métropole lundi, le 24 juin à 8h30, jour du conseil métropolitain. Il y a donc un rassemblement sur lequel vous pouvez éventuellement passer boire un café le 24 juin, 8h30 devant l'hôtel de métropole. C'est schématiquement rue Garibaldi, pas loin de la Part-Dieu.
Rue du Lac, je crois l'adresse exacte, enfin la rue exacte, mais peu importe. Et ben sur ces bonnes nouvelles, continuons sur les grèves.
Gagne info.
Partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet.
Rubrique prêt.
Vive la République, vive la France.
Les mouvements sociaux.
Mais notre règne arrivera. Votre règne finira.
Rien ni personne ne pourra étouffer une grève. Tu vas semer la graine de la haine.
Et ouais, juste avant de vous parler de la grève des bergers et des bergères, on s'est dit que ça serait quand même pas mal si on disait un petit mot de l'éléphant qui est dans la pièce, c'est-à-dire des élections avec le fascisme et tous les fafs du RN qui sont aux portes du pouvoir. Et ben en vrai, c'est qu'on savait pas trop quoi en dire, parce que finalement, on imagine que vous qui nous écoutez, nique le RN et puis ça s'arrête là et on va pas forcément... Là, on se disait que l'analyse, le décryptage économique du programme du RN, c'était vraiment stupide. Et en fait, c'est juste des faf et qu'on les déteste et que du coup on savait pas quoi vraiment dire de plus que ça.
Bah, ils nous détestent aussi, c'est-à-dire que on peut dire un truc purement radiophonique, c'est que très probablement une radio de libre expression est politisée là où on est potentiellement en danger avec l'arrivée du fascisme au pouvoir. À part ça, effectivement, faire des longs décryptages pour aller savoir si la politique écologique ou pour l'enfance du Front National est réactionnaire, bon, en fait, on s'en fout un peu, mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de ne pas en parler du tout. Voilà, bon, on est un peu contraint, potentiellement, pour celles et ceux que ça rebute pas trop, d'aller voter pour des personnes qu'on se remettra à critiquer le lendemain. Même le jour même, enfin, qu'on critique déjà, même avant. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'on ne croit toujours pas à l'horizon social-démocrate qui va nous sauver. Mais effectivement, c'est difficile de ne rien en dire. Peut-être qu'on pourra revenir dans les semaines suivantes avec éventuellement un petit peu d'informations sur peut-être, ce qui est intéressant, c'est pas tellement le programme, mais à quoi réalistement ça peut ressembler, on va dire, le fascisme au XXIe siècle. On a quand même malheureusement un certain nombre d'exemples très contemporains. On pourrait regarder ce qui se passe en Italie, même si l'État français fonctionne pas de la même manière. On peut regarder aussi ce qui fait rêver le Front National, et il y a un pays qui fait rêver tous les fachos du monde, et en particulier le Rassemblement National, et c'est la Russie. Et la situation, je crois, elle fait rêver personne d'autre que les fascistes.
Voilà, sur ces mots, et ben, on va vous lire un communiqué des syndicats de la CGT des gardiens et gardiennes de troupeaux qui appelait à la grève le 20 juin. Malgré l'isolement et la précarité, nous construisons la solidarité par-delà les montagnes. Et ne céderont pas à la résignation. Nous appelons les gardiens et gardiennes de troupeaux à se mobiliser par tous les moyens possibles. Conscients et conscients des difficultés auxquelles font face les travailleuses des estives pour se mettre en grève, nous appelons les gardiens et gardiennes de troupeaux à cesser le travail, au moins durant quelques heures, d'afficher des pancartes, banderoles et autres signes de contestation sur leurs cabanes, chiens, brebis, etc. Alors il y a un site de la CGT, gardiens et gardiennes de troupeaux, vous pouvez voir tout un tas de photos si vous êtes passionné d'animaux comme un certain nombre de personnes du Canu Info du vendredi, avec des animaux qui manifestent leur soutien au mouvement de grève des gardiens et gardiennes. Bref, tandis que Les troupeaux rejoignent les estives, le RN est passé en tête des élections européennes. Procédant à la dissolution de l'Assemblée nationale, Macron a, en toute conscience, ouvert les portes du pouvoir à l'extrême droite. Bien que cette décision en ait surpris plus d'un, elle est dans la continuité de sa politique, ainsi que celle des gouvernements précédents, qu'ils soient de droite ou sociaux-démocrates. Réforme des retraites, loi raciste, criminalisation de la lutte pour la Palestine, casse des conventions collectives. Le patronat est le grand gagnant de la montée du fascisme car elle permet de diviser les travailleurs et travailleuses et de réprimer sans pudeur les luttes populaires. Nos syndicats appellent bien évidemment à ne pas donner une voix à l'extrême droite lors des élections. Nous sommes cependant convaincus que, quels que soient les résultats, c'est par une mobilisation massive des travailleurs et travailleuses que nous parviendrons à lutter pour le progrès social contre les idées du fascisme et gagner de nouveaux droits. La meilleure des défenses étant l'attaque, nous nous opposons au pouvoir en place, au patronat et à l'extrême droite dans notre combat pour pouvoir vivre et travailler dans la dignité. Le patronat agricole n'a jamais eu à faire face à une organisation aussi déterminée à unir les travailleurs aux îles isolées que nous sommes. Ils savent que nous n'avons rien à perdre que des contrats précaires, des salaires dérisoires et des conditions de travail dangereuses. C'est pourquoi la victoire est la seule issue possible. Nous revendiquons pour les gardiens et gardiennes de troupeaux l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage et la mise en place d'un véritable revenu de remplacement. Même travail, même droit, les travailleuses étrangères doivent être accueillies sous les mêmes conditions que les travailleuses françaises. La fin du travail gratuit par la reconnaissance de la totalité des heures travaillées et de repos compensateurs. La fin du travail au SMIC et un salaire au palier 7. Alors moi j'avoue, je ne sais pas ce que c'est un palier 7, mais j'imagine plus c'est haut, mieux c'est.
Très probablement c'est un niveau d'avancement effectivement dans la convention collective.
La fin des logements insalubres et dangereux. Une prime de précarité pour tous les contrats saisonniers, des droits syndicaux pour les ouvriers agricoles, la priorité à l'embauche d'une saison à l'autre, le remboursement de l'équipement et la prise en charge des frais liés aux chiens de conduite, plus de contrôle pour sanctionner les employeurs dans l'illégalité, le conditionnement des aides prédation au respect du code du travail. Malgré l'isolement et la précarité, nous construisons la solidarité par-delà les montagnes, ne cédons pas à la résignation. Nous appelons donc les gardiens et gardiennes de troupeaux à se mobiliser par tous les moyens possibles pour le 20 juin. Voilà, du coup, vous pouvez vous rendre parce qu'effectivement, il n'y a pas de manif de personnes qui finalement viennent d'embaucher là pour rester kéblo pendant 6 mois dans la montagne pour garder les troupeaux. Mais en tout cas, il y a plein de photos qui sont disponibles sur le site de la CGT. Des gardiens et gardiennes de troupeaux. Et nous, on va vous passer une petite musique de Pastor X, bon, on va le dire à la française quand même, peut-être Pastor X, peu importe en tout cas, qui nous parle de tout ça.
Dans le poche de mon monde, frère, tendant, mété, je vois, tuerai, joli, brebis, je suis leur berger. Hey. Moi, le quartier, je le quitte. La solitude, c'est mon vice. Marcher, c'est pas un problème. Mon problème, c'est le marché. La vérité, c'est qu'on est assis sur des ressources financières. Subventionnés sur chaque hectare, les traders sont devenus montagnards. La nuit venue, je crèche dans mon monde. À la place de rêver de ma blonde. Là-dedans, on vit à deux sur 4 mètres carrés. Y'a une fenêtre, pas deux, 40 cm carrés. Pas de gaz pour cuisiner, pas chauffage sans incendier, pas de place pour se relever, un patin pour tout plancher.
Je travaille en tant que bergère, tu bosses avec un binôme, t'es serré comme une sardine, pas moyen de faire sécher tes affaires, c'est du 4 mètres carrés. Deux fois la taille de tes chiottes.
Sur la cabane, y'avait tagué niche à chien. Bah, je trouvais ça dégueulasse, quoi, parce que c'est là où vit en fait. En fait, c'est pas faux, quoi. C'est niche à chien.
Garde sous la neige,
j'ai pris la grêle,
il a pris la grêle,
chien tout mouillé, ils veulent rentrer,
y'a pas la place, trace de batte sur le coussin, trace de bave sur le plissin, trace de sur le pignon, la porte tient sur le tournoi, c'est pas un lieu pour les gens, pas même un lieu pour les chiens, pas la place pour une pelote, la vie sans vidéo, la pelote.
Ouais, qu'est-ce que tu me parles de respect quand tu me fais dormir là-dedans, 4 mètres carrés pour 2 bergers et 6 chiens, ouais, bien sûr.
Crois écolo, t'es pas réglo. Tu bosses pour le parc, crois des arnaques. Vaniteuse vanoise, va tes chiens. Et tu pensais pour les gens de passage, y'a combien de brebis et le loup. Mais qu'est-ce t'en as à battre?
Viens faire plutôt sonner mon son chez ceux qui veulent pas l'entendre. Fanassoa, JA, Parc Nation Écolo de Sema, juste bon à récolter l'oseille. Service pastoraux, antichambre de l'agro-industrie. Fonctionnaire de la misère, c'est la galère ici. Le ticard culmine à 3000 mètres de gaz. Y'a rien de romantique à vivre dans une niche.
Ah non, non, non.
Pas noir, tu connais mes places. Construis-moi un logement digne. Spécial dédicace pour les caissons des écrans. Du mercantour, ça va c'est moi. Faire corps, belle dans l'humain, chartreuse. Laissez-la dans le vieux. Ça se brise pour immerger toutes les bergères. Les enfants, les ritales, les piquards, les pelecs et le savoyard.
Faut plus laisser
Ouais, ouais, ouais. Radio Canus en 2.2, blague pas tout. Soutien aux bergers et bergères. Et immédiatement, évidemment, l'agenda.
Et... yes. Yes. Et bah, du coup, l'agenda. Samedi, c'est pas plus tard que demain. De 15h à 20h, il y a une discussion à l'occasion de la publication de la brochure Lyon Capitale Européenne du Militaro-Sécuritaire. C'est le CRAM qui vous invite à une après-midi de présentation et de discussion. À l'atelier des canulars. Mais peut-être vous serez à la manif à partir de 15h à Lyon-Bellecour, en France ou en Israël, non à l'extrême droite, de 15 à 17. Et quand vous aurez fait tout ça, et ben vous serez hyper en forme et vous pourrez vous brancher sur le 102.2 FM parce que nous aussi on fait de l'autopromo, il n'y a pas de raison. C'est la nuit décousue, il y a marqué Dias 4, mais en vrai ça veut dire numéro 4. Et c'est une nuit entière. Comment ?
C'est des jeunes qui font des coms.
Ah ouais, c'est pour ça. Hashtag 4. Et en tout cas, c'est une nuit entière de radio avec l'équipe de Minuit Décousu et d'autres.
And Friends, on pourrait entendre peut-être vos animateurs, animatrices préférées du Canu Info, qui sait.
C'est pas impossible. Et en tout cas, bah, ça commence à 23h et après, bah, finalement, comme le lendemain c'est dimanche, c'est jusqu'à 8h, vous allez vous coucher et tout va bien. Bah, comme dimanche, vous aurez dormi lundi, vous serez hyper en forme pour aller voir Économie du salaire à vie. C'est la causerie du 24 juin, c'est au clameur à partir de 19h. Et le mercredi 26 juin, vous pourrez voir la présentation du nouveau numéro de la revue Z à l'occasion de la sortie de son dernier numéro. Seine-Saint-Denis, faire corps face au jeu. L'équipe de la revue Z traverse un bout de la Rhône-Alpie aux côtés de la grandissante mobilisation Nos JO contre la tenue des Jeux Olympiques d'hiver dans les Alpes en 2030. Et ça, c'est à l'Amicale à partir de 18h30.
Et Skip, il est vachement bien ce numéro d'après des personnes qui l'ont lu.
Ah, et qui l'ont lu en plus, et ça, c'est... ça vaut son pesant de cacahuètes. Et en tout cas, les JO, c'est toujours bien de dire que c'est de la merde. Et puis vendredi, alors peut-être vous serez en train d'écouter le Canu Info, mais peut-être à 18h, vous serez à la soirée de lancement de la Douille, festival féministe et queer des savoir-faire techniques. C'est la soirée de lancement, c'est au Rita Plage, et je crois que c'est ouvert à toutes et tous, mais à confirmer, vous aurez toutes les infos qu'il vous faut sur Rébellion.
Canu !
Canu
Info du vendredi.
Comment l'intérieur ? Hop là ! Eh oui, on parlait des basses.
Il faut entendre les basses à Radio Canu, là, c'est assez impressionnant.
D'ailleurs.
Et d'ailleurs, l'émission de techno arrive. Hein, par
voilà. Peut-être vous les entendez. En tout cas, nous on a presque fini, mais qu'est-ce que ça veut dire ACAB
cette semaine ? C'est ce qu'on posait comme question initialement.
C'était ça le départ. Et ben, on s'est dit que ACAB, ça pourrait bien vouloir dire All Caca Ar Bardella. Voilà.
Absolument.
Sans fierté, finalement.
Sans fierté, sans grande fierté ce soir pour le ACAB. On revient la semaine prochaine. Dans quelques minutes, c'est l'émission qui balance des grosses basses dans les murs de Canu, qui fait trembler l'intégralité du bâtiment. C'est évidemment votre émission de techno préférée, Noise Pollution. Ciao,
ciao, à la semaine prochaine.